fait tromper récemment?
Have any of you been mistaken recently?
Or deceived?
Or deceived?
Est-ce que vous vous êtes fait rouler, comme on dit vulgairement?
Or you might say, have you been taken?
Pas plus tard que dimanche dernier,
as recently as last Sunday,
une personne s'est présentée chez nous en déclarant avoir été volé sur le train et en se recommandant de plusieurs Calvary Chapels. Bien sûr, nous avons eu à cœur d'aider cette personne. En lui donnant un peu de nourriture et un peu d'argent. Je dois dire que je me suis même senti coupable de ne pas en faire davantage. Et le lendemain, quelqu'un dans l'église qui avait entendu parler de cette personne, qui avait connu cette personne, nous a dit qu'en fait, elle avait disparu d'une école biblique après avoir commis plusieurs vols. Et qu'il y avait peu de chances qu'on revoie cette personne, ce qui était juste le cas jusqu'à présent. Et quand j'ai su ça, j'ai regretté ma générosité. Au lieu de donner deux billets, j'aurais dû en donner un seul. Ou même aucun. Nous sommes aussi trompés dans le domaine de la publicité. Même des compagnies très respectables sont coupables de publicités presque mensongères. J'ai reçu un courrier des trois Suisses il n'y a pas longtemps. Aucun rapport avec Paul. Ils sont quatre. Qui disait, félicitations, vous avez gagné en gros caractères. Et puis pour bien insister, c'était comme écrit à la main, en couleur bleue, oui, vous avez vraiment souligné gagné. D'habitude, ça va tout de suite à la poubelle. Mais c'était, j'avais vraiment gagné. J'ai dit, ça peut arriver, il y a des gens qui gagnent comme ça. Et je commence à lire et ils disent, bravo, vous avez été sélectionné pour notre grand tirage. Et vous avez gagné soit un chèque, soit une Peugeot 206 d'une valeur de 10 000 euros. Et je me dis, ça tombe bien, puisque notre 205 commence à être fatigué. Ça, c'est vraiment un beau cadeau. Merci Seigneur. Mais j'ai relu encore attentivement. Et là, j'ai vu le piège. Vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, je suis tombé dans le panneau la première fois. Ce qui est dit, c'est que j'ai gagné soit un chèque, dont le montant n'est pas précisé. Probablement un petit chèque de 5 ou 10 euros à déduire sur un gros achat. Ou bien je peux encore participer à ce tirage pour la fameuse 206, il y en a une pour toute la France. Et j'ai dit, c'est pas possible, c'est malhonnête. Mais c'est légal. Ils n'ont pas vraiment menti. Mais c'était fait pour nous tromper. Alors ça, c'est des petits problèmes du domaine financier, de la publicité mensongère, c'est pas très grave. Tant qu'il s'agit de petites sommes. Il y a des domaines où les mensonges sont beaucoup plus graves. Notamment celui de la santé, où on trouve des charlatans. Mais c'est encore dans le domaine de la vie spirituelle que c'est le pire. Car c'est notre destinée éternelle qui est en jeu. Et vous vous souvenez que l'apôtre Paul, nous venons à notre message, il avait implanté une église à Corinthe, en Grèce, au milieu de la Grèce. Et puis après les avoir établis, il avait gardé le contact par des lettres et des messagers. Et il savait qu'il y avait des faux apôtres qui étaient arrivés. Des gens qui s'opposaient à son enseignement. Des gens qui étaient inspirés par un désir de gain personnel et non par le bien-être des Corinthiens. Ces faux apôtres, ils arrivaient avec beaucoup d'allure, de prestance. Ils étaient bien habillés.
They were well dressed.
Ils avaient des costumes trois pièces.
They probably had three-piece suits.
Ils étaient bronzés.
They were tan.
Ils parlaient avec force.
And they spoke with boldness.
Et ils disaient aux gens ce que les gens voulaient entendre.
And they told the people what they wanted to hear.
Et bien sûr, ils critiquaient Paul en disant que c'était pas un vrai apôtre parce qu'il avait, il n'était pas impressionnant en physique. Ses adversaires se vantaient de leur réussite. Ce qui était terrible, c'est que les Corinthiens étaient réceptifs. Ils se disaient, c'est vrai que ces gars ont meilleure allure que l'apôtre Paul. Vous vous souvenez, on a dit que l'apôtre Paul, en fait, physiquement, il était petit, il était bossu, il n'avait pas de sourcils, il n'avait qu'une barre de poils, là. Il avait les jambes arquées. Il avait un problème avec les yeux, et souvent, il devait s'essuyer les yeux qui coulaient. Il ne parlait pas avec une voix de stentor. Et donc il disait, voyez, c'est pas vraiment un apôtre, faut pas croire ce qu'il raconte. Et nous avons vu la semaine dernière que Paul condamnait la façon qu'ils avaient de se vanter de leurs propres qualités. En disant que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande.
18.
Et là, Paul est face à un dilemme.
And Paul is facing a dilemma.
Il a horreur de se vanter de ce qu'il fait.
He hates to brag about what he's doing.
Mais il réalise que s'il ne le fait pas, c'est la destinée spirituelle des Corinthiens qui est en jeu.
But he realizes that if he Corinthians is at stake.
Alors il va décider de lui aussi se vanter de ce qu'il a fait.
So he's going to decide to be proud and brag about what he has done.
Encore une fois, il ne le fait pas par désir d'un gain personnel.
And again, he's not doing this out of a desire for personal gain.
Il le fait dans le souci du bien-être spirituel des Corinthiens.
But out of concern for the spiritual well-being of the Corinthians.
Et nous allons voir que pour faire mieux passer la pilule, il va utiliser l'ironie.
And we'll see that for them to more easily swallow this, he's going to use irony.
Peut-être vous vous dites, c'est très bien cette histoire de Corinthiens, mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Sachez que les faux prophètes, les faux apôtres sont toujours là.
Be aware that the false teachers, false prophets are present even today.
Il y a encore ces télévangélistes en costume trois pièces bronzées.
And those televangelists who are tanned and wearing three-piece suits.
Qui racontent des mensonges.
That are telling us lies.
Et nous devons voir
and we need to
comment Paul met en garde ces Corinthiens pour être nous-mêmes mis en garde contre ces mauvaises influences.
We need to see how Paul is warning the Corinthians so that we too can follow the same steps.
Lisons donc ensemble 2 Corinthiens 11, versets 1 à 15.
Let's read together in 2 Corinthians chapter 11, verses 1 through 15.
C'est page 209 dans la Bible à la colombe pour ceux qui ont la Bible bleue à la fin. Je lis donc dans cette version. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Or j'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs, bien que profane pour l'éloquence, je ne le suis pas pour la connaissance, et nous l'avons manifesté de toute manière et à tous égards parmi vous. Ou bien, ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever, lorsque je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu ? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque chez vous je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas interdit dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Ce que je fais, je le ferai encore, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en cherchent un. Qu'ils se découvrent, semblables à nous, sur le point où ils se glorifient, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous allons nous arrêter ici. Paul leur dit, je vais devoir faire une chose un peu folle.
So Paul tells him, I am going to have to do something a little foolish.
Et cette folie, c'est de me glorifier auprès de vous.
This foolishness is glorifying myself before you.
Et donc, il leur demande de supporter de sa part un peu de folie.
And so he asks them to support this little bit of foolishness.
Et il leur donne trois raisons de supporter cette folie.
And he gives them three reasons to do this.
Tout d'abord, il leur dit qu'il est jaloux pour eux.
First of all, he says that he is jealous for them.
Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure.
He tells them, I am jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband, that to Christ I might present you as a pure virgin.
Qu'est-ce que c'est que cette idée d'une jalousie divine?
What is this idea of a godly jealousy?
Normalement, la jalousie est considérée comme un problème chez l'homme.
Normally, jealousy is a problem for man.
En fait, le mot veut simplement dire avoir des sentiments très forts, être bouillant, être zélé. C'est le même mot que zélé, zélé, gélé, jaloux. C'est la même chose.
The word actually expresses a strong emotion to be very emotional, boiling over about something.
Dans le sens d'un péché, la jalousie, c'est un sentiment motivé par l'égoïsme.
In the sense of a sin, jealousy is motivated by self-centeredness.
On ne veut pas perdre ou on regrette d'avoir perdu l'attachement de quelqu'un.
We don't want to lose or lose the support of someone.
The affection.
Or their affection.
Parce que ça nous fait mal. Nous sommes jaloux de quelqu'un.
We are jealous of someone.
Et c'est par amour de moi-même que je veux un attachement exclusif de l'autre.
And it is out of love for myself that I desire an exclusive relationship with someone else.
Dans le bon sens, et notamment chez Dieu, la jalousie, c'est un sentiment motivé par l'amour de l'autre.
And in the good sense, jealousy is something motivated out of love for the other.
Dieu ne veut pas perdre notre attachement parce qu'il sait que ça va faire mal à nous.
God doesn't want to lose our attachment because he knows that will be harmful to us.
Dieu est jaloux pour nous.
God is jealous for us.
Et donc c'est par amour pour l'autre qu'il veut un attachement exclusif de l'autre.
And it's out of love for the other that there is a desire for an attachment with the other.
Et donc, il y a une bonne forme de jalousie.
So there's a good form of jealousy.
Un mari doit être jaloux de sa femme dans ce bon sens.
A husband needs to be jealous of his wife for his wife in the good sense.
Il veut la protéger.
He wants to protect her.
Si on dit du mal d'elle, il va être jaloux de sa réputation. Il va la défendre.
If someone says something against her, he will be jealous of her reputation.
Si ça devient une suspicion maladive et étouffante qui emprisonne l'autre, à ce moment-là, ça devient un péché. Un pasteur doit être jaloux de sa congrégation.
A pastor needs to be jealous for his congregation.
Parce qu'il veut la protéger des mauvaises influences.
Because he wants to protect it from bad influences.
Quelque part, ça me fait très mal lorsque je vois que vous allez écouter des doctrines que je ne reconnais pas comme justes.
And somehow it hurts me when I hear of you going to listen to teaching doctrine that I know is false.
Parce que j'ai peur que vous soyez trompés.
Because I'm fearful that you will be deceived.
Il y a des églises avec lesquelles je n'ai aucun problème.
There's churches I have no problem with.
Mais il y en a d'autres, ça me déchire lorsque j'entends que, tiens, je suis allé passer le dimanche matin là-bas. Et ça doit être un sentiment concernant votre bien-être spirituel. Et Dieu, dans la Bible, il dit qu'il est jaloux de son peuple. Dans l'Ancien Testament, il y a la description d'une relation de mariage entre Dieu et le peuple d'Israël.
In the Old Testament, there is a description of a wedding between God and his people, Israel.
Et Dieu souffre pour Israël parce que Israël tombe dans l'idolâtrie.
And God suffers for Israel because Israel falls into idolatry.
Et l'idolâtrie, pour Dieu, c'est comme l'adultère pour un mari.
And idolatry for God is like adultery for a spouse. Mm-hmm.
Et c'est pour ça même que Dieu a pris l'exemple du prophète Osée. À qui il a demandé d'aller épouser son ancienne femme qui s'était prostituée.
And he asked him to go wed again his wife who had become a prostitute.
Pour montrer les sentiments par lesquels Dieu devait passer lorsqu'il voyait son peuple se détourner de lui.
And to be a type or an example of God's relationship to his people when they turn away from him.
Il leur avait dit dans les 10 commandements: tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Exode 34:14. Dans le Nouveau Testament, l'Église, les chrétiens, sont une fiancée qui doit un jour épouser Jésus-Christ. Nous savons dans l'Apocalypse qu'il y a la description du mariage, des noces de l'agneau. Le Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, nous dit Paul dans Éphésiens. Il dit que ça décrit la relation que le mari doit avoir pour sa femme. Et donc, Paul est jaloux des personnes qui se sont converties à Christ sous son influence.
So Paul is jealous for these people who have been converted to Christ.
Il veut qu'il garde une loyauté sans faille envers Christ. Il veut qu'il garde une loyauté sans faille envers Christ. Le moment de leur conversion, ça représente les fiançailles à Jésus. Et leur rencontre, leur glorification dans les cieux, ça correspond à leur présentation à Christ avant le mariage. Il y a des traditions très fortes attachées au mariage dans toutes les cultures. Même si nous sommes dans une culture où le mariage disparaît, dans la culture juive, une personne clé dans le mariage, c'était l'ami de l'époux qui devait présenter au futur mari sa fiancée. Et il avait le rôle de s'assurer qu'elle était restée pure vis-à-vis de son futur mari. Vous vous souvenez que Jean-Baptiste disait qu'il était l'ami de l'époux. Et Paul, dans plusieurs passages, il joue ce rôle. Il veut nous présenter comme l'ami de l'époux. Il veut présenter l'Église qui est la fiancée de Jésus-Christ. C'est une réalité spirituelle que nous, les hommes, nous avons un peu de mal à admettre. Nous, les hommes chrétiens, on est une fiancée. Je crois en fait que le mariage nous a été donné pour nous donner un exemple de l'intimité d'une relation entre Dieu et nous. Ça, c'est pas une parole biblique, ça, c'est une impression personnelle.
Tout même.
Et que ce n'est pas la relation avec Dieu qui est illustrée par le mariage, c'est le mariage qui illustre la relation que nous aurons avec Dieu. Vous souvenez, dans 1 Corinthiens, Paul disait que dans l'Église, il y avait des dépravés, des homosexuels, des voleurs, des cupides, des ivrognes, des insulteurs, des accapareurs qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, 1 Corinthiens 6, 10. Et il leur dit, c'est ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous.
You remember in 1 Corinthians 6, 10, that Paul draws us a long list of sinful characteristics and then says that you were... Some of you characterized by these things before you were sanctified.
Et nous voyons maintenant que ces mêmes personnes,
and we see now that these same people,
lavées par le sang de l'agneau,
washed by the blood of the lamb,
ça c'est le terme religieux, simplement ayant reçu Jésus-Christ comme leur pardon, comme leur sauveur,
that's the religious terminology. It simply means receiving Jesus as their personal savior.
Ces dépravés, ces homosexuels, ces voleurs, comme cette personne qui nous a rendu visite, ces cupides, ces ivrognes, ces insulteurs, ces faux publicitaires.
Paul refers to them as fornicators, idolaters, adulterers, homosexuals, thieves, drunkards.
Par la puissance du pardon de Jésus, ils peuvent maintenant être comme une vierge pure.
And by the power of the forgiveness or
Paul est inquiet pour eux parce que il y a des précédents fâcheux.
Paul is worried for them because there are precedents that are worrisome that have been established.
Au verset 4, il va dire vous avez reçu ceux qui prêchent autre chose.
In verse 4, he makes reference to them receiving people who preach a different thing.
Une deuxième raison pour laquelle il leur demande de supporter sa folie, c'est parce que quelqu'un veut les tromper.
And a second reason he gives for them to support him in his little foolishness is because there's someone trying to deceive them.
Satan lui-même.
Satan himself.
Verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ.
In verse 3, he states, I am afraid, lest as the serpent deceived Eve by his craftiness, your mind should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ.
C'est bien sûr une allusion à la Genèse, chapitre 3. Regardons ensemble.
And another reference in Genesis, chapter 3. Let's look together.
Tout d'abord au chapitre 2, verset 16, donc c'est le premier livre de la Bible, les premières pages.
In the first book of the Bible, the first pages in chapter 2, verse 16.
Dieu parle à Adam et lui dit, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
God takes man and commands him, saying, From any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it you shall surely die.
C'est clair, c'est simple.
It's clear, it's simple.
Mais plus loin,
but a little further on,
Ève est devant le serpent.
Eve is in front of the serpent.
Qui est en fait Satan lui-même.
Who is actually Satan himself.
On ne sait pas si il y a eu un problème de communication entre Adam et Ève.
We don't know if there was a communication problem between Adam and Eve.
Mais on va voir comment Satan s'y prend.
But we'll see how Satan acts.
Et dit donc verset 1 du chapitre 3, les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait.
It tells tells us in verse 1 of chapter 3, the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made.
Et il dit à la femme,
and he says to the woman,
on ne sait pas où est Adam.
It's not Adam.
Il devrait être là.
He should have been there.
Elle ne devrait jamais parler à Satan.
She should have never been speaking to Satan.
Ne parlez jamais à Satan.
Don't ever speak.
Envoyez Jésus lui parler.
Send Jesus to deal with him.
S'il frappe à la porte, dites attendez, je vais chercher Jésus.
If he's knocking on the door, tell him to wait for Jesus.
Et que fait Satan? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
And Satan says to the woman, indeed has God truly said you shall not eat from any tree of the garden?
Satan met d'abord en doute la parole de Dieu.
So first of all, Satan is questioning the word of God.
Et aujourd'hui, dans votre vie, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit qu'on ne pouvait pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage?
And today, in our lives, Satan sometimes says, did God really say that we can't have sexual relationships before marriage?
C'est pas possible.
It's not possible.
Sous-entendu.
That's understood.
Et la femme dit au serpent, verset 2, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas. » Donc on voit déjà comment, chez l'homme, la parole de Dieu n'a pas été conservé dans son intégralité.
And we see already that with man, the word of God has not been preserved.
La tradition a ajouté quelque chose à la vraie parole de Dieu.
Tradition adds things to the real word of God.
Et puis, Satan va prendre carrément le contre-pied de la parole de Dieu.
And so, Satan is going to actually say the opposite thing.
Vous ne mourrez pas du tout.
You surely shall not die.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal.
God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil.
Donc on voit comment Satan sème d'abord le doute.
So we see how first of all Satan plants doubt.
Il a beau jeu parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Il nous dit le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Et il ajoute ses propres mensonges. Des fois, c'est simplement des demi-mensonges qui sont plus faciles à avaler. Aujourd'hui, certains nous disent, nous devons marcher dans la victoire. Amen.
Amen.
La victoire, c'est une bonne chose.
Amen. Victory is a good thing.
Mais il s'agit d'une victoire spirituelle.
But it's a spiritual victory we're talking about.
Eux, ils disent, la victoire, c'est aussi la victoire dans tous les aspects de la vie. Vous devez être victorieux dans les affaires, vous devez avoir plein d'argent. Vous devez être victorieux dans votre santé, vous porter comme un charme.
Really,
il faut donner l'image du succès. Et les gens sont là, oh oui, c'est vrai ça, vive la victoire. Si vous ne connaissez pas la parole, vous goberez ces mensonges.
God,
il suffit de voir la vie de Paul, la vie de Jésus, pour voir que c'est un mensonge grossier. Dieu ne nous promet pas la victoire par l'absence d'épreuves, il nous promet la victoire dans les épreuves. Si on connaît la parole de Dieu, on peut s'attendre aux promesses, à la réalisation de ses promesses. Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Genèse 5:5 nous dit, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de... La durée totale de sa vie fut de 930 ans, c'est long, puis il mourut.
In Genesis 5:5, it tells us that Adam lived 930 years and then he died.
Il est mort physiquement, pas tout de suite.
He wasn't physically dead right away.
Mais le processus de mort physique s'est enclenché dès qu'il a touché à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a aussi une mort instantanée spirituelle. Et c'est pour ça que pour connaître Dieu, il faut être né de nouveau. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont comme des morts vivants. Ils ont une vie physique, ils ont une vie de l'âme, de leur volonté et de leurs sentiments, de leurs émotions, mais ils n'ont pas d'esprit. Si vous lisez les généalogies dans la Bible, peut-être vous trouvez que c'est très ennuyeux, mais c'est un rappel que les promesses de Dieu s'accomplissent. Tous ces gens qui ont engendré et qui sont morts, c'est la preuve que la parole de Dieu est la vérité. Quelqu'un a dit que tous les cimetières du monde nous rappellent la vérité de la parole de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Le péché mérite la mort. Dieu ne peut pas le tolérer. Et c'est vrai que lorsque le mensonge est léger, est petit, when a lie, quand le mensonge est petit,
lies,
on les gobe plus facilement. Mais j'essayais de calculer en me disant que si on traverse l'Atlantique,
if we cross the Atlantic Ocean,
avec une boussole qui a une erreur de 1 degré.
With a compass that is in error by only 1 degree.
Je ne sais pas s'il y en a qui sont bons calculateurs mentaux, mais disons que la largeur c'est 6000 km. Tangente de 1 degré, c'est pas beaucoup.
If you were off by 1 degree, it wouldn't be much.
Mais à l'arrivée, ça fait 105 km.
But by the time you got there, it would be 105 km.
Vous n'arrivez pas à votre destination.
You wouldn't get to your destination.
Paul leur dit, j'ai peur que en écoutant ces baratineurs, ces faux prophètes,
so Paul tells them that he's afraid when they listen to these false
vous écartiez de la simplicité et de la pureté qui sont à l'égard de Christ. La simplicité qui est en Jésus-Christ. La merveilleuse simplicité de l'Évangile. Cette simplicité, ça veut dire qu'il y a un seul intérêt.
And the simplicity implies that there is just one interest.
La vie, c'est de garder important ce qui est important.
And in life, we need to keep important that which is important.
L'Évangile est tellement simple.
The gospel is so simple.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.
Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved.
Mais c'est fou ce qu'on aime ajouter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il suffit de croire en Jésus, de choisir de croire qu'il est venu, envoyé par Dieu, qu'il a porté mes péchés, c'est-à-dire qu'il a reçu à ma place la punition que mes péchés méritent. La mort, et qu'il est revenu à la vie, il est ressuscité. Si je crois en ça, alors j'ai la vie éternelle. Est-ce que vous pouvez expliquer l'évangile dans toute sa simplicité comme ça? Je parlais avec deux jeunes amies musulmanes. J'étais bouleversé parce qu'une m'a demandé « Mais qu'est-ce que c'est que le péché ?» Et l'autre m'a dit « Et là, qu'est-ce que c'est ?» Parce que je leur faisais faire un sondage. « Qu'est-ce que c'est la résurrection ?» Et en mon cœur, j'ai dit « Il faut revenir à la simplicité de l'Évangile. » On peut faire beaucoup d'activités. Mais est-ce qu'on communique l'Évangile dans toute sa simplicité? Paul nous disait dans 1 Corinthiens 15, pour expliquer ce que c'était l'Évangile, Christ est mort pour nous selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Mais à Corinthe, les faux apôtres disaient « Ah non, c'est pas si simple, ce serait trop facile ». Il faut aussi garder les 10 commandements, bien sûr. Toutes les régulations qu'on trouve dans la Torah.
All the regulations that are found in the Torah.
Et puis, pour bien couvrir toutes les choses, on en a ajouté 500.
And just to make sure we've covered everything, we'll add about 500 more.
Il faut se faire circoncire.
We have to be circumcised.
Il faut prier tant de fois par jour. Il faut donner tel pourcentage de nos revenus. Il faut manger du poisson le vendredi. Il faut, etc. Ça vous rappelle quelque chose, toutes ces choses? La simplicité et la pureté à l'égard de Christ. C'est d'être tous les jours en compagnie de Christ.
We should be every day in Christ's company.
Si votre foi se refroidit,
and if your faith is growing cold,
c'est probablement parce que votre foi devient compliquée.
It's probably because your faith is becoming complicated.
Il est un Dieu vivant.
He is a living God.
Il n'est pas seulement pour le dimanche matin.
He's not just
Amen. Il y avait un théologien à qui on demandait quelle était la plus grande pensée théologique qu'il avait jamais exprimée.
There was a theologian who was once asked what was the greatest theological concept you ever had.
C'était sans doute des étudiants en doctorat dans un séminaire.
It was probably asked by students doing their doctoral work in a seminary.
Qui étaient prêts à prendre de copieuses notes. Et ce théologien leur a dit,
and the theologian answered them,
La chose la plus profonde que j'ai jamais compris, c'est que Jésus m'aime, et je le sais parce que la Bible me le dit. Ça, c'est la simplicité en Christ.
And that's the simplicity in Christ.
Et c'est facile à perdre.
And it's easy to lose.
On peut la perdre au milieu des activités chrétiennes.
We can lose it even in the midst of Christian activities.
Je redoute un peu la semaine d'activité qui vient, parce que souvent dans ces moments-là, c'est là qu'on n'a pas le temps d'être avec le Seigneur. On peut la perdre en étudiant la Bible en profondeur. Et là, il suffit de voir les étudiants dans les instituts bibliques, dans les séminaires, ils sont tellement impliqués dans les détails qu'ils oublient la simplicité de l'Évangile. On peut perdre cette simplicité en étudiant les philosophies, en disant c'est vrai, c'est trop simple, il faut compliquer un peu les choses. Ça, c'est un danger au GBU, par exemple.
And that's a danger at the GBU, the university.
Je veux dire, en général, les étudiants chrétiens peuvent avoir tendance à dire il faut présenter les choses un peu plus en profondeur. Jesus loves me because the Bible tells me so. C'est un peu léger, peut-être. Jésus m'aime parce que la Bible me le dit. C'est un peu simplé. Et pourtant,
and yet,
une autre façon de perdre sa simplicité, c'est de crouler sous le poids des activités, des responsabilités de notre vie courante. Prions pour que nous préservions cette simplicité à l'égard de Christ. Paul leur demande de supporter un peu cette folie qu'il leur donne.
So Paul is asking them to support him in his foolishness.
Verset 4, parce qu'ils ont accueilli chaleureusement les faux apôtres. Quand il dit si le premier est venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Autrement dit, ils les ont accueillis chaleureusement.
In verse 4, he tells them, if one comes and preaches another Jesus whom we have not preached, or you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you bear this beautifully. In other words, he's saying you receive it warmly.
Mm-hmm. L'autre évangile, c'est lorsqu'on ajoute la loi à la grâce.
A different gospel is when we add law to grace.
Paul parle de ça dans Galates 1.
Paul speaks of this in Galatians 1.
Souvent, on prêche un autre Jésus.
Often we preach another Jesus.
Pour les témoins de Jéhovah, Jésus, c'est l'ange Michel. Pour les Mormons, je ne sais pas si vous savez l'histoire, mais Jésus, c'est le frère de Lucifer. Et le père aurait demandé à ses deux fils de trouver un plan de rédemption, un plan de salut.
And the father asked his two sons to find a plan of redemption.
Et le père aurait préféré le plan de salut de Jésus-Christ, ce qui aurait déclenché la colère de Satan contre lui. Ces jeunes Mormons sont très sympathiques. Ils vous aideront si vous avez besoin de manger. Ils ont au moins, je ne sais pas si c'est 3 pièces, mais au moins 2 pièces et une cravate.
They're always well dressed with a tie.
mais ce sont de faux apôtres. Le Jésus qu'ils présentent est incapable de vous sauver. Le Jésus des témoins de Jéhovah est incapable de vous sauver. Parce qu'il n'est pas le vrai Jésus. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Ça, c'est un verset à noter si vous ne le connaissez pas.
In Acts 4, 12, it tells us that salvation is found in no other, no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved.
Un autre esprit, si c'est un autre esprit, ça ne peut pas être le Saint-Esprit.
Another spirit, if it is another spirit, cannot be the Holy Spirit.
Il leur dit d'être patient avec lui, de supporter cette folie, parce qu'il dit en fait, je ne suis pas inférieur au soi-disant super apôtre.
And he asked them to bear with him in his foolishness, for he considers himself not in the least inferior to the most eminent apostles.
C'était soit ses adversaires à Corinthe, ou les apôtres de Jérusalem tels qu'ils étaient considérés par ses adversaires à Corinthe. Comme Pierre, Jacques, Jean, André. Et Paul leur dit, je suis en rien inférieur. Il dit qu'il est un idiot en ce qui concerne l'éloquence. En fait, en grec, le mot profane, ça se dit idiotesse.
In Greek, the word unskilled or idiot,
c'est quelqu'un qui n'a pas de formation technique spéciale.
Means someone without any special technical.
Donc il est prêt à reconnaître que peut-être il n'est pas le meilleur des orateurs, mais il dit qu'il connaît son sujet. Et son sujet, c'est Jésus-Christ. Il passe toute sa vie à l'étudier.
And his subject is Jesus Christ. He has spent his life studying him.
On dit qu'il y avait un acteur professionnel célèbre à qui on avait demandé de lire le psaume 23.
And there is a story that says there was a famous actor that was asked to recite Psalm 23.
Il s'est approché du micro.
And he drew up to close to the microphone.
Avec sa prestance.
With all his stature.
Il a commencé, l'Éternel est mon berger.
And he began, the Lord is my shepherd.
Je ne manquerai de rien.
I shall not want.
Et ainsi de suite. Les gens applaudissent.
And the people applauded.
Puis un chrétien timide.
And then a timid, shy Christian.
Mais consacré, mûr dans la foi. Est venu lui aussi lire le psaume 23, dire le psaume 23.
Came up also to recite Psalm 23.
Et là, au début, les gens ont trouvé que c'était bien fade.
And in the beginning, the people thought it was pretty stale.
Mais à la fin, tout le monde était silencieux.
But by the end, there was not a sound.
Et l'acteur a dit à ce chrétien, je connais le psaume,
I know the song.
Mais il est évident que vous connaissez le berger.
But it's obvious that you know the shepherd.
Paul connaissait le berger.
Paul knew the shepherd.
Il continue en parlant de son indépendance financière vis-à-vis d'eux. On ne va pas passer trop de temps.
And Paul goes on talking about his financial independence.
Simplement, il ne voulait pas qu'on puisse l'accuser de profiter des églises pour recevoir de l'argent. Quand il était dans un endroit, il ne voulait pas recevoir d'argent de la congrégation locale. Il subvenait à ses besoins en fabriquant des tentes en cuir. ou en recevant des dons d'autres chrétiens. Et finalement, il leur dit, ce que je fais, de ne pas recevoir d'argent, c'est pour voir un peu ce que vont faire les autres. Est-ce qu'eux, ils vont cesser de recevoir de l'argent ? Il était normal qu'un philosophe ou un orateur reçoive des paiements pour son art oratoire.
It was normal for an orator or a speaker to receive money when they spoke.
Les adversaires de Paul disaient que c'était la preuve qu'il n'était pas un apôtre parce qu'il ne recevait pas d'argent pour leur parler.
His adversaries accused him that it wasn't normal because he didn't take money after he had spoken.
Et là on voit l'influence de Satan. Il pouvait prendre des vérités et en faire des mensonges et en faire des vérités. Et finalement, dans les versets 13 à 15, il attaque bille en tête. Aujourd'hui, on a tendance à ne pas critiquer trop ouvertement, même les faux apôtres.
Today we have a tendency not to criticize false apostles too openly.
Il faut être tolérant, n'est-ce pas ? C'est la philosophie du monde. C'est la philosophie du monde. Après tout, on est tous frères, non ? L'exemple de Jésus devrait nous convaincre que ce n'est pas la bonne voie. Il attaquait aussi bille en tête les pharisiens en les traitant de tombes d'hommes morts remplis d'eau qui sentaient mauvais. Il dit que c'est pas étonnant, ils sont déguisés en apôtres comme leur maître Satan, lui, se déguise en ange de lumière.
And Paul tells us in verse 15, it is not surprising if his servants also disguise themselves as servants of righteousness, making reference to the servants of Satan.
Aujourd'hui, nous avons besoin de prier pour avoir du discernement.
Today, we truly need to pray that we will have discernment.
J'ai toujours beaucoup de peine lorsque je vois des gens qu'on connaît, qui ont passé du temps dans l'église, aller embrasser des doctrines ridicules, fausses doctrines.
Really painful to see people who we have known who have attended our church go out and embrace false doctrine.
Et c'est presque comme il faut, pour que les gens reconnaissent un faux apôtre, il faudrait que la personne ait un petit badge qui dise. Et je m'appelle Jean-Jacques et je suis un faux apôtre.
It's almost as if to recognize false doctors, false teachers, people have to wear a badge. My name is Jean-Jacques and I'm a false teacher.
Si vous connaissez la parole, vous devriez les discerner.
If you know the word, you should be capable of discerning.
Prions pour les discerner.
We need to be in prayer. Pray.
Je n'ai pas prié dimanche dernier lorsque je me suis fait tromper.
I didn't pray last Sunday when I was deceived.
Nous devons, pour rester dans la simplicité du Seigneur, rester près du berger.
To rest and stay in the simplicity of Christ, we need to rest and be with the good shepherd.
Si nous connaissons la vérité, alors nous reconnaîtrons le mensonge.
Truth,
et la vérité nous rend libres. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, merci pour l'apôtre Paul et tout ce qu'il nous instruit, tout son enseignement, Seigneur. Merci de nous rappeler que les apparences sont souvent trompeuses. Même Satan se déguise en ange de lumière.
Deceiving,
et Il ne vient pas nous dire « j'ai un plan pour détruire ta vie ». J'ai un plan pour détruire ta vie. Note. Il ne vient pas. Seigneur, aide-nous à avoir ce discernement.
Lord, help us to have this discernment.
Protège chaque personne ici présente des faux apôtres.
Protect each one here present from false apostles.
Apprends-nous à connaître ta parole.
And help us, teach us your word.
À comparer ce qui nous est dit à ta parole.
And to compare what's said to us to your word.
Et Seigneur, aide-nous à marcher intimement en ta présence chaque jour.
And Lord, help us to walk intimately in your presence each day.
Par le nom de Jésus, prions. Amen.